et Hawks d'Atlanta la saison prochaine. Il succède ainsi à Victor Wembanyama, déjà premier de la draft.
Merci beaucoup RFI pour ce journal. Il est midi 10 à Bordeaux, vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes. Et ce midi, on vous fait entendre des récits de femmes qu'on entend toujours trop peu, voire pas du tout. Des femmes qui dévoilent les douleurs et les colères qui les habitent, mais aussi les rêves et le courage qui les animent. En fin d'émission, les clés des libertés nous seront données par la libre pensée de Gironde. On commence rapidement avec les rendez-vous de cette fin de semaine, plein de rendez-vous militants. D'abord un rassemblement intersyndical et interassociatif. Aujourd'hui à 17h sur le pont de Pierre avec banderoles et affiches pour bien sûr faire front contre l'extrême droite. Toujours ce soir, une réunion publique de solidarité avec le peuple kanak et contre la répression coloniale a lieu à Senon. C'est au 29 rue du Maréchal Joffre à partir de 18h. Et puis, il devait aussi y avoir une manifestation contre l'extrême droite à 19h, organisée par le collectif Antifara, mais elle est annulée suite à son interdiction par la préfecture de la Gironde. Demain, vendredi, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, sera à Talence pour une réunion publique. Il est minuit moins une, analyse de la CGT face aux dangers de l'extrême droite. Ça se passe demain, vendredi, à partir de 15h à l'Assemblée à l'Université de Bordeaux, campus de Talence, bâtiment B18, amphi NB18. Et puis toujours demain, il sera question de formation antiraciste et décoloniale lors d'une table ronde avec les auteurs et autrices du livre « Entrée en pédagogie antiraciste ». C'est organisé par l'AG Féministe et ça se passe cours Mably à partir de 18h30. Samedi, mobilisation contre les LGV Bordeaux-Dax-Toulouse. Ça s'appelle « Hirondelle contre Tractopelle ». Et ça se passe à partir de 14h. Rendez-vous à la gare de Cadojac. Et enfin, toujours samedi, une soirée antifasciste organisée par l'OAB, l'organisation antifasciste bordelaise, en présence de Ricardo Parera, co-créateur du site Indextrême, qui répertorie et analyse les symboles et les codes de l'extrême droite. Le rendez-vous, c'est à 19h à l'Athénée Libertaire, donc ce samedi. 12h12 sur la clé des ondes, vous les avez peut-être entendus sur notre antenne depuis 10 jours à 8h30 et 11h30. La clé des ondes diffuse donc depuis deux semaines des témoignages de femmes, femmes d'ici et d'ailleurs, réalisés par Léa Perron en partenariat avec la Maison des Femmes de Bordeaux. On a jugé utile de vous faire entendre une petite compilation de ces récits de vie à l'heure où les notions d'accueil, de solidarité, d'égalité, d'adelphité sont combattues et dénigrées par de nombreuses personnalités médiatiques et politiques. On écoute ça tout de suite.
Femmes d'ici et d'ailleurs est une symphonie de portraits audio née du cœur battant de la Maison des Femmes de Bordeaux. Des femmes qui dévoilent les douleurs et les colères qui les habitent, mais aussi les rêves et le courage qui les animent. Un projet où la parole est donnée à celles que l'on n'entend pas, une archive vivante de celles qui ont traversé la Maison des Femmes et un hommage au rôle vital du secteur associatif dans leur parcours. Un plongeon dans ces histoires intimes où chaque voix porte l'écho d'une vie riche et complexe, tissée de résilience et d'espoir.
C'est une chanson d'une chanteuse, ancienne chanteuse. Elle parle de. Il est malade. Elle parle de maladie, parle de tout. يا كجرحي جريت وجريت حتى شي ما عزيت فيه Moi, je suis Madame Aboubinadia. Je viens du Maroc. Et j'ai une petite fille de 13 ans.
Je me présente, je m'appelle Nazia Kevdani. Et je viens du Maroc, de Casablanca.
Moi, je suis une Malienne. Je vis en France, ça fait 4 ans. Je suis venue ici en 2020. J'étais demandeur d'asile.
Moi, je suis en France depuis 2020. Et quand je suis arrivée en France, je suis venue dans l'intention de faire ma demande d'asile. Non, demander un titre de séjour par rapport à la santé et tout.
Je suis étudiante en Master 1, artiste intervenant. J'ai 29 ans. Je suis arrivée en septembre 2022 et j'ai un visa étudiant.
Je suis Tel. Je suis arrivée ici en 2019 comme épouse française?
Je m'appelle Brigitte. Je suis de la nationalité... Je suis une Africaine. Je suis du Congo, RDC. République démocratique du Congo. J'ai 62 ans.
Bonjour, je vous dis que je suis Sophie de Bordeaux. Je suis espagnole de nationalité.
Alors moi, mon nom c'est Géracine Abintou. Je viens de la Guinée, Conakry. C'est de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai 24 ans.
En fait, je suis quittée dans mon pays, ça fait presque 10 ans maintenant. J'ai fait la Mauritanie, le Maroc, en Espagne et maintenant en France ici. En fait, la situation de nos pays nous oblige des fois à quitter notre pays parce que souvent les femmes sont persécutées là-bas. Les femmes sont soit ils sont obligés de faire l'excision. Ou bien il y a d'autres femmes aussi qui sont obligées de protéger leurs enfants, filles, pour fuir avec, pour venir en Europe, pour les protéger de l'excision. Et souvent, avec le mariage forcé, on n'a pas trop le choix de rester en famille. On est obligé de quitter notre pays parce que on sait que tant qu'on vivra dans notre pays, on va nous retrouver. Donc, le mariage forcé, c'est une réalité chez nous qui existe bien.
Au Burkina, il y a beaucoup de problématiques parce que, en général, les femmes, elles doivent être soumises. Je dis ça avec beaucoup de pincettes. C'est pas toutes les femmes, mais la culture en général là-bas, c'est que la femme est la subordonnée de l'homme. Et avec l'influence des religions et tout, elle doit tout accepter, tout suivre. Et ça me fait quelque chose dans le cœur. Je me dis, mais c'est une personne à part entière avec ses sentiments, ses émotions. Et elle ne doit pas toujours subir. Il y a d'autres qui battent les femmes toujours. Et les petites filles, même si c'est assez réduit maintenant, ils pratiquent toujours l'excision. C'est une histoire, c'est une manière de contrôler leur corps. Et tous ces sujets, ça me tient à cœur. Il y a d'autres qui ne veulent toujours pas scolariser les filles, ou on les scolarise à un certain niveau, on les déscolarise pour qu'elles se marient. Parce que, selon eux, une femme trop instruite est une femme difficile à gérer parce qu'elle connaît ses droits, elle réfléchit trop, donc c'est pas évident.
Je ne veux pas donner l'éducation de mon pays à mes enfants, même si je vais donner une partie dans un pays qui est totalement différent. Je veux leur, je sais pas, je pense pas qu'ils vont bien le vivre puisqu'ils sont pas dans mon pays. Du coup, il faut que je sache leur donner l'éducation du pays dans lequel je suis. Parce que c'est vrai qu'avec, il y a eu des circonstances où j'ai quitté mon pays, mais bon, je veux pas leur inculter cette partie de l'histoire. Peut-être que les choses vont changer après et j'aimerais bien qu'ils se sentent fiers d'être d'origine africaine, d'origine de mon pays. Il y a des très très belles cultures. Il y a, par exemple, je leur achète les pains de chez nous pendant les fêtes de chez nous, les fêtes culturelles. Je fais sentir à la maison qu'il y a une fête, que c'est important et tout. Et pour moi, il faut qu'ils se sentent fiers de mes origines. Je ne veux pas que leur léguer la négativité de chez moi. Parce que les choses vont changer. Je sais que les choses vont changer. L'histoire va changer. Ça ne va pas continuer. Du coup, dans les années à venir, les enfants, eux, j'aimerais bien qu'ils se sentent bien avec leur origine.
Je suis venue pour l'harcèlement de mon fils. Il était dans une école française. Il était très harcelé parce qu'il avait une maladie qui était très grave. Il a fait 4 opérations.
Et ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je suis ici en France. Et je suis là pour le soin médical. Je suis venue pour les soins médicaux et du coup, je continue et c'est pour cela que je suis encore là.
Eh bien, j'ai demandé un titre de séjour et on m'a dit non, on ne pouvait pas directement me répondre à ça. Il fallait que je passe directement à la demande d'asile et tout. Et je suis allée à la préfecture et j'ai fait la demande d'asile. Et puis 2020...
J'ai quitté le Cameroun parce que je venais retrouver mon époux. Donc c'est pour ça que je suis partie du Cameroun. Et depuis là, je suis dans la galère, je ne sais plus quoi faire. On nous a demandé qu'il faut travailler pour être, pour être bien intégré dans ce pays. Mais nous, on travaille, on ne voit pas ce qu'on fait. On nous avait dit, si il faut avoir un titre, il faut travailler. Moi, je n'ai jamais bénéficié des aides de l'État. Mais je continue à me débrouiller. Donc si au moins on pouvait penser à nous qui travaillons, qui faisons ce que nous faisons pour nous octroyer vraiment ce papier.
Oh, c'est pas facile de trouver du travail à Bordeaux ici avec un réceptacé. Ils vont pas t'accorder le travail avec un réceptacé.
On n'est pas accepté partout. Des fois, on va quelque part, je ne sais pas, une parenthèse. J'ai fait une formation et chaque 2 semaines, il fallait faire des stages. À mon âge, c'est vrai. Et à mon état de santé, je suis allé demander un stage. Il y a un jeune qui m'a accueilli, il m'a dit « Oui, pas de problème. » J'ai rempli le feuille de contrat. « Ok, c'est bon. » Et le jour où je suis allé, le jeune homme qui m'a reçu, déjà me voir, il n'était pas si gentil. Mais comme je devrais faire le stage... J'ai commencé, mais la responsable, quand elle est venue, elle m'a vue, elle m'a demandé. Moi, j'ai dit non, je suis venu en stage. Et il est allé avec le garçon, je les ai écoutés. Il a dit, mais c'est la dame de couleur. C'est ça le terme qu'elle a utilisé. La dame, c'est la dame de couleur qui va faire le stage. Ah non, 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 non. Elle a carrément refusé. Ça ne fait 2 jours, au lieu de 15 jours, je fais 2 jours. Ce que j'ai compris, elle n'a pas accepté. Elle ne m'a pas accepté parce que je suis noire. Tu vois, on rencontre des choses comme ça.
Imaginez-vous ce moment-là, il nous appelle à chaque fois, venez en courant parce que votre fille a 38 degrés. Mais la responsable, elle ne le comprend pas. Est-ce que c'est moi la coupable de vous demander, laissez-moi partir, parce que l'école m'a appelée, je suis maman seule, j'éduque ma fille toute seule. Est-ce que c'est moi la coupable de laisser le travail ou de demander un jour parce qu'ils m'ont appelé pour ma fille parce qu'elle a 38 degrés? Je dois garder ma fille, non? Ou je dois la laisser? Si je la laisse abandonner, aussi je serai condamnée de la loi parce que je suis une maman qui a laissé son enfant dans la rue. Voilà.
Je comprends pas un pays comme la France, qu'on dit que la France est un pays de l'égalité, fraternité, liberté. Pour nous, les femmes africaines, on ne voit pas l'égalité ici. On ne voit pas la fraternité ni la liberté. Parce qu'au fait, nous, on vient ici, on n'a pas de parents. On n'a personne à qui compter. Maintenant, le seul truc qu'on peut se débrouiller pour s'en sortir de la vie, c'est le papier et de pouvoir travailler. Maintenant, si on nous enlève ce droit-là, il y a pas 2 options. Il y a beaucoup de femmes qui font la prostitution, c'est grâce à ça. Parce que si tu n'as pas les moyens de te nourrir, tu vas pas te laisser mourir de faim, tu seras obligé de faire quelque chose. Il faut avoir un mental très fort pour ne pas tomber dans ça. Moi, par exemple, Dieu merci, j'ai connu Isabelle quand je suis rentrée ici en France, qui travaille à la Maison des Femmes. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup montré des associations. Par rapport à ça, je peux trouver des tickets services pour manger. La mairie de Mérignac aussi, des fois, ils me donnent des tickets services. Donc c'est ça qui nous permet de manger ici. Sinon, vraiment, c'est la galère. C'est la galère.
Parce que la devise, quand tu lis la devise, c'est autre chose qu'on pratique. Liberté, il n'y a pas de liberté. Parce que si tu n'es pas en règle, tu ne peux pas être libre. Égalité, il n'y a pas d'égalité. Parce que s'il y avait l'égalité, on ne serait pas en train de se plaindre. La suite, c'est fraternité. Il n'y a pas de fraternité. Donc, la fraternité, c'est pour eux, pas pour tout le monde. Surtout nous, les immigrés, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas des personnes.
Et c'est ça, c'était mon problème avec eux. Plus je leur parle de droit, plus je suis la méchante. Plus tu n'as pas le droit, je ne sais pas parce que je suis étrangère ou je ne sais pas. Je crois que dans ce pays-là, on est tous égaux. Oui, on le dit, on est tous égaux, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas et ça ne se pratique pas. Tu dois crier ou tu dois t'armer de grands avocats pour qu'ils te prennent ton droit arraché.
Parce que le règlement des France, on nous demande toujours de travailler. Normalement, quand tu es en train de travailler, ils sont censés te donner un récépissé pour continuer le travail. Mais du moment il n'y a pas de récépissé, et que le boulot aussi vont te suspendre dans ton boulot, et te donner après un récépissé qui ne va même pas pouvoir te trouver un nouveau boulot, et tu vas être dans la merde en France. Moi, j'ai dit non à ça. J'attends jusqu'à la fin de ce mois. Si je n'ai pas mon récépissé, je prends mes clics et clac. Je reste plus là. Je quitte la France. Je pars de la France. Et c'est ma dernière décision définitive. Je ne peux plus faire quelque chose. Je ne vais pas devenir folle ici pour un problème de papier et puis être à la rue ici bien. Perdre tout en fait. Non. Parce que cette situation de France, si tu n'es pas dur d'esprit, tu peux péter un plomb et tu deviens fou en fait. Et ta vie est partie comme ça et ta vie n'aura plus de sens. C'est fini pour toi. Donc moi, pour ne pas arriver à ce stade, je préfère m'en aller très tôt. Donc du coup, j'ai décidé de partir à la fin de ce mois-ci. Je n'ai pas eu mon récépissé. Rien ne m'arrêtera, c'est ma décision finale et je le ferai. Merci, c'est un peu ça.
En fait, les femmes, nous, on a quitté de notre pays que parce qu'on est persécuté là-bas. Mais quand on vient ici, on reçoit plus que la persécution. Plus que ça. Puisque, au fait, quand l'enfant a 3 ans, il y a d'autres mamans qui sont obligées de faire un autre enfant pour qu'il soit toujours, pour pouvoir avoir toujours le toit. Ça veut dire sacrifice du corps. C'est ce qu'on subit ici, on fait ici en France, nous, les femmes. Les femmes font les sacrifices du corps ici. Donc, c'est un pays comme la France, c'est vraiment pas bon pour l'image de la France. C'est ce que j'aimerais dire. Ça me met que dans ce monde, vraiment, il y a vraiment de l'injustice. Il y a vraiment de l'injustice. Parce que, au fait, tous les pays qui se disent droit de l'homme, est-ce que vraiment... La question que je me pose, est-ce que le droit de l'homme, là, ça existe vraiment? Je ne crois pas. Puisque si le droit de l'homme existe, on ne peut pas empêcher une mère de travailler et de nourrir ses enfants. Si le droit de l'homme existe, on ne peut pas empêcher une femme d'avoir le papier de nourrir ou bien d'avoir un toit pour ses enfants. Si le droit de l'homme existe vraiment, on ne peut pas seulement couper de vivre à une personne. Parce que ça, c'est vraiment de couper de vivre à une personne et de le laisser à sa souffrance, que ça ne regarde personne.
Même la rue, j'ai dormi 20 jours dans la rue. Mon fils, il a été opéré pour les testicules. À l'hôpital, ils m'ont fait sortir à 9h du soir. À l'hôpital Saint-Augustin. Ils m'ont fait sortir à 9h du soir. De 9h du soir, je les ai suppliés, on n'a pas où habiter. On n'est que dans la rue. Ils m'ont dit, madame, on ne peut pas. On est sortis à 9h du soir dans la rue. Le lendemain, l'infirmier, quand il est venu, l'infirmier, il a pleuré quand il nous a vus dans la rue. Il m'a dit, madame, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'infirmier, le pauvre, qui nous a ramenés chez lui pour faire les soins à mon fils. Il m'a dit, je ne peux pas lui faire les soins ici dans la rue. Je veux vous emmener chez vous. On est resté 20 jours chez l'infirmier. Il m'a donné sa clé. Il m'a dit, madame, vous partez chez moi le matin. Comme ça, vous êtes à l'abri toute la journée. Moi, je ne suis pas à la maison. Et le soir, je viens, je fais le soin aux petits et je vous emmène où je vous ai trouvé la première fois. Chaque jour, jusqu'à qu'on a fini les 20 jours. C'était très difficile. Moi, je n'ai jamais été dans la rue. Moi, je trouvais les gens dans la rue, je les fais rentrer chez moi. Comme au moins un jour, je tombe dans la rue. J'ai jamais souhaité ou je souhaite à n'importe qui d'être dans la rue. La rue, elle est très difficile. Elle est inhabitable, la rue. C'est vraiment la catastrophe. Et surtout quand on est une femme, il y a les clochards, il y a de tout. Tu peux voir de tout. Moi, je ne dors pas la nuit. Je fais dormir mon fils. Il était encore petit, je le mets sur mes pieds. Il dort et moi, je suis réveillée parce que j'ai peur. J'ai mon téléphone, j'ai mon passeport avec moi, j'ai mes papiers avec moi. Si jamais ils me volent, d'où je vais ramener mes papiers? Je ne pourrais pas ramener mes papiers.
C'est pas facile, la femme toute seule, avec sa fille, les deux. Il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Mais comme ça, je suis... J'ai la force. Si la femme toute seule, c'est difficile. Il n'y a pas quelqu'un qui m'aide, il n'y a rien. Que moi et ma fille. Et par exemple, maintenant, je me réveille à 4 heures matin. Et je commence à 5h30 du matin. Je travaille au tribunal. Et après, je sors. Il y a un travail le soir, du bureau aussi. Mais ça va.
Aujourd'hui, je suis une femme toute seule. Oui, une femme toute seule ici en France. Je pense que les gens, ils n'ont qu'à essayer de voir un peu la situation des femmes un peu toutes seules. Moi, je n'ai ni père aujourd'hui, je n'ai ni père, mais je n'ai que mes deux enfants. Je n'ai personne d'autre dans ce grand monde-là. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est la pure vérité. Je n'ai personne. Je suis seule. Les personnes sur qui je compte aujourd'hui sont mes deux enfants. Voilà, sont mes deux enfants. Et si je suis en train de vivre aujourd'hui, je pense que je vis pour mes deux enfants. Peut-être que s'ils n'étaient pas de ce monde, peut-être que je me serais peut-être donné la mort parce que ma vie, je me dis, ma vie n'a pas de sens aujourd'hui en fait. Ça n'a pas de sens. Si ça a été compliqué chez moi, que je suis arrivé à l'Occident, ça me poussait encore toujours dans les difficultés. Je pense que ma vie n'a pas de sens. Et je supporte ça très difficilement. On ne peut pas le savoir parce que je ne le fais pas savoir aux gens. Je le supporte toute seule. Mais et la France essaie de comprendre les femmes toutes seules aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup qui viennent qui ne disent pas la vérité. Et peut-être qu'ils vont confondre tout le monde. Mais il ne faudrait pas qu'ils confondent tout le monde. Donc, c'est essayer de voir un peu ceux qui disent un peu vrai, ceux qui disent un peu faux. Moi, si j'étais venue, si j'étais menteuse aujourd'hui, je pense que j'allais avoir la protection. Parce que j'ai fait un accident très grave depuis chez moi. Et j'ai toutes ces cicatrices là sur moi aujourd'hui. Je pouvais venir dire que j'étais mariée, mon mari voulait m'abattre et tout. Mon mari me battait, il voulait me tuer. J'allais avoir la protection. Mais je n'ai pas du coup voulu faire ça. Ce qui était l'essentiel. J'ai dit l'essentiel. Et ça n'a pas été accepté. Moi, aujourd'hui, là, franchement, j'ai la tête qui chauffe. J'ai plus envie de continuer.
Oui, mais il faut que le gouvernement essaye de voir nos problèmes. Parce que on ne peut pas être là, on se bat, on travaille et puis à la suite, on n'a rien à la fin. Il faut que le gouvernement essaye de voir le problème des femmes. Moi, je me dis que c'est hypocrite parce que Moi, je parle de moi. Moi, je ne gagne rien de l'État. Mais par contre, on devrait au moins se pencher à ce genre de situation. Et voir nos problèmes. Moi, je me dis que nous, on est délaissés. Qu'on pense au moins aux personnes qui ne prennent rien de l'État, qui ne gagnent rien de l'État, d'essayer de nous mettre à jour, quoi. D'essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour nous sortir de cette situation. Surtout nous qui voulons, nous qui travaillons et nous qui ne restons pas là pour attendre l'État.
Les femmes qui sont ici, les Africains qui sont ici en général, il y a chacun à son histoire, mais on a passé des misères pour venir ici en France. La route du désert, on ne sait même plus si c'est le désert qui est le grand cimetière du monde ou bien si c'est l'océan qui est le grand cimetière du monde. Parce qu'il y a tellement de morts, de souffrances, des vies qui sont détruites, des gens qui sont devenus fous à cause de ça. Il y a tellement de souffrances que je ne peux pas dire le nom. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que les gens, la population de la France voit les Africains d'un autre œil, qui n'est pas cet œil-là des hommes qui sont là pour gratter le travail ou bien pour gratter de l'aide de la France ou bien pour venir profiter de la France. Non, c'est pas ça. Ces hommes-là, ils souffrent. Ils ont quitté la souffrance. Ils ont fui la souffrance pour venir s'en sortir. C'est pas parce qu'il n'y a rien dans leur pays, mais c'est parce qu'ils ont un problème personnel qu'ils sont venus ici. Donc j'aimerais que les gens de la population de la France voient ces gens-là d'un autre œil, qui n'est pas l'œil de mendiants, quoi, au fait. Parce que plusieurs personnes pensent qu'on est là pour de l'argent ou bien pour profiter des aides de la France. C'est pas ça. Quand on est chez nous, on ne savait même pas qu'il y avait l'aide de la France. On est venu comme ça à la France parce que c'est un pays colonisateur. C'est un pays qu'on connaît mieux. Parce que même quand on est dans nos pays, on parle de la France. Mais on ne savait pas qu'il y avait ces aides-là.
J'ai rencontré beaucoup de personnes bien, mais j'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont un peu reproché d'avoir quitté mon pays. Ils me disent pourquoi tu retournes pas dans ton pays et tout. Et ces personnes-là, j'aimerais bien qu'ils sachent que j'aimerais bien rester dans mon pays parce que c'est là-bas où je me sens chez moi, c'est là-bas où je suis bien, c'est là-bas où j'ai grandi. Mais c'est les circonstances de la vie qui ont fait que j'ai quitté ce pays qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, où j'ai tous mes attaches. J'aimerais bien élever ma famille là-bas, mes enfants et tout. Mais sauf que j'ai peur. C'est vrai que je l'assume, j'ai très très peur d'y aller. C'est pourquoi je suis dans d'autres pays, pour me sentir en sécurité.
Parce que vu la politique française aujourd'hui, franchement, la langue française, parler la langue française n'a aucun intérêt en fait. Ça n'a aucun intérêt. Si les Français peuvent revenir sur la base de leur politique et favoriser ceux qui parlent la langue française pour que ça soit une force pour eux, franchement, qu'ils le fassent. Parce que ceux qu'ils ont colonisés aujourd'hui, qui sont traumatisés, qui vont courir aller vers d'autres pays. Si ces personnes-là sont favorisées par ces pays, je pense que la France risquera de tomber bas. Donc, qu'ils fassent attention à tous les actes qu'ils sont en train de poser.
Il faut pas. Il faut, quand on se sent faible ou quand on se sent attaqué au mal, toujours il faut chercher des solutions. Il faut pas dire non. Je dois assumer. Non. Il faut s'arrêter. Il faut penser 2 minutes et j'étudie. Non, il faut changer cette situation parce que plus tu baisses les mains, plus eux, ils te rabaissent. Ils te rabaissent plus. On vient d'un autre pays ou d'un autre continent et on n'a pas de famille ici. On se sent seul. Si on n'a pas les mains tendues, ou que ce soit des associations, ou que ce soit des amis, ou que ce soit, on est perdu. On est perdu. Et tout ça, on le garde entre nous. On a la peur de le dévoiler parce qu'on craint pour nos enfants. On craint. Et pourtant, et malgré tout ça, on galère et on se défend. On se défend avec tous les armes qu'on a pour nos enfants et pour nous.
Comme je disais, si on ne connaît pas, on ne sait pas développer, on ne sait pas sortir de votre cage. Mais là, je dis, je parle ceux qui vont écouter. Il y a des gens qui sont à la maison, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Oui, c'est ça. Je dis, bon, moi aussi, je peux dire quelque chose et il y aura quand même une personne qui va écouter et ça changerait sa vie. Oui, c'est bien de venir dans le groupe, comme je disais, mais il faut le savoir. Il y a des gens, des fois, quand je leur parle, moi, je vais aux maisons de femmes. C'est quoi, maison de femmes? Ah, vous habitez Bordeaux, vous êtes d'ici, vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens que je parle de maisons de femmes ne connaissent pas. Tu vois? Et là, maintenant, ceux qui vont écouter, ils vont chercher à trouver où sont les associations. Oui, et discuter et parler. Hein. Des fois, quand on est blessé, quand il y a des problèmes.
Et franchement, la Maison des Femmes, c'est un endroit que je viens quand ça va ou quand ça ne va pas. Et je viens dans tous mes états. Parce que je sais que je serai reçue dans tous mes états. Quand ça ne va pas, j'ai de l'écoute ici. Quand ça va, on vient pour des ateliers, des conseils ou toutes sortes d'ateliers, même des fois de la beauté, comment prendre soin de soi. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, des fois, on s'y perd, on ne sait plus, on s'en fout de notre identité, de ce qu'on renvoie aux gens, de la beauté même. Et à la Maison des Femmes, on peut trouver tout ça, que ce soit de l'accompagnement psychologique. Si tu veux raconter ton histoire, tu le racontes. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. Parce que moi, quand je suis venue, Isabelle ne m'a pas demandé mon histoire. Je ne sais même pas si je l'ai une fois raconté tout ce que j'ai vécu. Mais vaguement, je lui ai dit, je faisais ma demande d'asile. Du coup, elle m'a beaucoup orientée vers d'autres personnes. Elle m'a beaucoup vers certaines assistantes sociales, vers d'autres centres de demande d'asile qui pouvaient me conseiller sur ma demande d'asile. Mais on n'en a jamais discuté de. Parce que ça me perturbait beaucoup aussi, mon histoire, de le raconter. À chaque fois que je passais dans des associations, je me sentais vulnérable qu'ils sachent tout ce que j'ai vécu, mes peines et tout. Et ça me mettait mal à l'aise face à eux. Du coup, j'y allais plus. Parce que c'est des choses que je veux pas crier haut ou fort sur la route. J'ai vécu ça. Mais quand je suis allée, elle ne m'a pas demandé mon histoire. Elle m'a juste accueillie. Elle m'a dit, ici, nous, on accompagne les femmes. Si tu as été victime de quoi que ce soit dans ton pays ou en France, tu viens ici, on va t'écouter, on va t'orienter. Tu peux rester, tu peux prendre le thé. Des fois, on fait des sorties en famille ou entre filles et tout. Et ça m'a bien rassurée, ça m'a mis en confiance. Et à chaque fois qu'il y avait des ateliers, je venais parce que ça m'a permis aussi de rencontrer plein d'autres femmes et tout. Et des fois, quand je m'assois, quand je leur écoute et tout, sans expliquer mon histoire, parce que moi, je déteste expliquer mon histoire. Des fois, je m'assois, c'est égoïste, mais je m'assois pour juste écouter ce qu'elles ont à dire. Je ne sais pas pourquoi, mais des fois, ça me réconforte, je me dis, j'oublie pas quand même que je ne suis pas la seule à vivre ça.
Je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort en disant que je suis la seule femme au monde à vivre ça. C'est vrai que personne n'aimerait vivre ça, mais je sais à travers ces femmes-là. Et quand je vois leur force, je me dis, mais pourquoi tu ne peux pas faire comme eux? Profite de la vie, tu es là maintenant et si tout se passe bien, apprends à profiter, apprends à être heureux avec tout ce que tu as vécu et tout. Et ça m'a beaucoup aidé, c'est là. On trouve la force collectivement et des fois on en rigole, c'est ce qui est fou. Des fois quand il y a des histoires, on en rigole et je sais pas, mais ça t'apaise. Ça t'apaise quand tu sais pas que des pleurs. Quand tu dis ton histoire, quand quelqu'un raconte son histoire et qu'il y a des parties marrantes, et on éclate de rire et bon, on passe dessus, quoi. Pour juste... Parce que le fait de pleurer tout le temps, c'est vrai que ça fait du bien. Mais des fois aussi, quand le temps passe, il faut savoir accepter son histoire et en rigoler un peu. Ça peut être apaisant aussi. Et avec les autres femmes, quand je vois tout ce qu'elles ont vécu, tout ce qu'elles ont fait pour s'en sortir, ça me donne de la force et je me sens moins coupable quand je leur écoute expliquer leur histoire.
Par exemple, je veux faire mon livre. J'aimerais bien, mais je ne sais pas qui pourrait m'aider pour le faire. Je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui pourrait me le faire. J'aimerais bien que quelqu'un m'aide pour faire mon livre parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Si ma vie, ils l'ont fait en film, je sais bien qu'ils vont gagner beaucoup d'argent avec ma vie. Et j'aimerais bien que quelqu'un m'aide pour faire mon livre.
Mime le permis. J'arrive pas à tout le monde, mais non, si vous avez pas le français bien, le permis, c'est si difficile. Et moi, j'ai dit merde, j'ai payé beaucoup d'argent, mais à la fin, j'ai l'ai eu. C'est ça. Moi, je rêve, le rêve, c'est maintenant, c'est pour acheter une voiture. L'année prochaine, si les dieux y vont, j'achète une petite voiture comme ça.
Alors, moi, je suis beaucoup nature. Un jour, j'aimerais bien, je sais pas, me retrouver dans ma ferme, faire de l'agriculture, je sais pas, être en plein air. C'est vrai que j'ai grandi dans cette atmosphère-là et ça me manque beaucoup. Beaucoup la nature, les champs. Parce que ma mère, elle faisait de l'agriculture, elle cultivait les légumes et. C'est quelque chose que j'adore. À la maison, j'essaie de faire pareil, mais apparemment, je n'ai pas trop la même verse. Mais bon, je ne sais pas comment je vais y arriver. Peut-être qu'il faudra une formation pour avoir la même verse, je ne sais pas. Mais un jour, j'aimerais bien vivre comme ça, chez moi, avec les animaux, avec mes légumes. Et pourquoi pas en faire, parce que ça me vient souvent, je dis pourquoi pas en faire une activité mon travail, quoi. Et des fois, quand je m'assois et j'explique m'opposer à mon conjoint, je lui dis, un jour, je vais ouvrir un centre, je vais acheter un grand terrain quelque part en Guinée, je vais ouvrir un centre pour les jeunes filles et je vais faire un grand, grand champ pour qui ça intéresserait de faire de l'agriculture, de faire des formations. Je dis comme ça, je vais importer, je vais faire la culture du riz, des légumes et tout, je vais importer à la ville pour vendre. Ça pourrait financer le centre et tout. J'ai dit, les jeunes filles, elles vont apprendre. Je vais faire des ateliers là-bas et tout. Franchement, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais bon, à voir avec le temps. Ça ne fait pas du mal de rêver.
Le projet de mes rêves, ça serait créer un centre d'accueil et d'écoute pour l'émancipation des femmes. Surtout au Burkina Faso, parce que je pense que c'est toujours... sur les papiers, on dit beaucoup de choses, mais je pense que les femmes sont toujours marginalisées. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Parce que souvent, même si on veut les aider, il y a eu tellement la spirale qu'elles ont du mal à s'en sortir. Et il y a des choses qu'elles trouvent normales. Donc, c'est un long processus et qui est à voir. Voilà.
Il y a trop de femmes qui souffrent en silence, comme j'ai dit. Que ça soit personnel, que ça soit professionnel, elles souffrent en silence. Dans le besoin de, parce que je suis obligée de travailler, de maintenir mes enfants, et parce que je veux pas vivre du social, parce que j'ai peur du social qui me prenne mes enfants pour après. C'est ça la grande peur des femmes. Je vais parler de la France parce que j'ai pas mal écouté des femmes et leur grande peur, c'est enlever. C'est pour ça la femme, tu la vois, c'est comme une guerrière. Et il se bat pour tous les côtés. Le travail, les enfants, leurs activités, l'école, comment je dois payer mes factures, comment je dois organiser tous les papiers. Je dois être une guerrière vraiment. Et bon, dans le futur, cette association, on va l'appeler la guerrière.
Quand nous serons unis, ça va faire mal, comme les États-Unis. Ça va faire mal.
Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra contrôler, on sera respecté. Nous pourrons dialoguer, on pourra s'imposer, ça va les étonner de nous voir évoluer, c'est quand nous serons unis.
Femmes d'ici et d'ailleurs, un reportage de Léa Perron pour La Clé des Ondes. Chaque témoignage en intégralité est à écouter sur laclédesondes.fr, sur l'émission Femmes d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup à Nabintou, Sophie, Brigitte, Malika, Hope, Sarah, Aya, Nazia et Nadia, ainsi qu'à toute l'équipe de la Maison des Femmes et en particulier à Isabelle Valade. h 52 sur La Clé des Ondes, on termine ce plat de résistance avec les clés des libertés qui nous sont données cette semaine par la libre pensée de Gironde, qui se pose la question du moment, comment faire pour battre l'extrême droite et ses alliés. Bonjour Esmeralda et Jean-Paul.
Bonjour. Alors Jean-Paul, la situation que nous vivons aujourd'hui et que nous vivons depuis des années, avec pour point d'orgue le résultat des élections européennes, ressemble de plus en plus à ce que l'on appelait la montée des périls avant la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'en dit la libre pensée ?
Oui, c'est un peu le même scénario. D'une part, le développement important de l'extrême droite, la structuration d'un nouveau Front populaire, Vichy, avec en toile de fond et qui organise les choses, la guerre qui vient et qui est déjà là. Nous risquons de vivre ce que nos aînés ont vécu, mais il n'est pas encore minuit dans le siècle. Nous n'avons encore ni Mussolini, ni Hitler, ni Franco, ni Salazar au pouvoir. Et nous avons appris, il y a eu Vichy et la guerre, car le Front populaire de 1936 n'a pas voulu rompre avec le capitalisme. Nous avons déjà vu le film, il est mauvais, et la fin ne nous plaît pas du tout. On va vouloir nous jouer encore un scénario sur la forme et les hommes, alors que la seule vraie question est le fond des choses, c'est-à-dire la rupture avec le système sous toutes ses formes.
La libre pensée souligne qu'il est impératif de battre l'extrême droite, mais aussi ses alliés, directs et indirects. Alors que visait-elle exactement par cette précision ?
Eh bien, Macron, qui était candidat au barrage de l'extrême droite en 2017 et en 2022, a mis en place les lois les plus liberticides de ces dernières années et a joué une sorte de course à l'échalote avec cette extrême droite sur la question migratoire. Nous avons eu les lois sécurité globale, séparatisme, immigration et, plus récemment, la suppression du droit du sol à Mayotte. Un cadre du Rassemblement national déclarait récemment « Sur une échelle de 1 à 10, M. Macron est à 1. Nous sommes à 10. Mieux vaut voter pour l'original que pour la copie. » Ce que disait la libre pensée depuis des mois s'est donc pleinement vérifié. Avec la Macronie, l'extrême droite est déjà au pouvoir. La méthode Macron du « en même temps » consiste à chercher à nier les antagonismes de classe, ce qui est la logique de la Ve République. C'est l'objectif des régimes d'extrême droite, remplacer l'antagonisme entre exploiteurs et exploités par le corporatisme, c'est-à-dire un totalitarisme. La Ve République a été conçue pour garantir l'ordre immuable, capitaliste et clérical. Ces institutions sont adaptables et compatibles à toute force politique qui veut que cet ordre soit maintenu. Ce fut le cas avec les gaullistes, comme avec la gauche plurielle ou non plurielle, avec le socialisme, mais pas seulement. Cela peut l'être aujourd'hui avec l'extrême droite. La décision de Macron d'ouvrir la voie à une cohabitation avec le Rassemblement national le prouve.
La libre pensée a pour position historique de ne pas donner de consignes de vote. Fait-elle exception aujourd'hui ?
Aujourd'hui, oui, effectivement, et exceptionnellement, car la situation est exceptionnelle à plus d'un titre. La libre pensée déclare aujourd'hui « il faut battre l'extrême droite et la Macronie, car c'est la même engeance ». Macron n'a que faire de la lutte contre ceci ou contre cela. Son but, et comme celui de Thatcher à son époque, c'est de mettre à terre le mouvement social. S'il ne peut le faire seul, il le laissera faire par l'extrême droite, ayant préparé l'arsenal législatif répressif ad hoc. Ces réformes sont revenues sur les conquêtes du Conseil national de la Résistance et du Front populaire, et le Rassemblement national au pouvoir reviendra au pétainisme. Nous avons souvent dit que le macronisme était un bonapartisme sans armée. Il a trouvé son armée, sa garde prétorienne, dans l'état-major au Rassemblement national. Drôle de barrage. Nous, nous trouvons avec une droite française revenue à sa matrice traditionnelle. L'État et le capital, et la haine de l'autre, hier ouvertement antisémite, elle est aujourd'hui unie par la haine des musulmans, et cela se voit dans les programmes de Zemmour à Ciotti. L'ordre immuable est garanti par le Bonaparte au sommet de l'édifice et par la mise au pas des consciences. Le service national unifié est le volet militariste de cette opération, comme la loi séparatisme en est le volet juridique.
Et pour concrétiser sa volonté de rupture, quelles sont les revendications de la libre pensée ?
Sans se substituer aux partis politiques, dont la responsabilité est de gouverner, sur un programme, la libre pensée propose trois revendications.
Ah oui, alors donc on sait que la première, c'est le plan de sortie du financement public de l'enseignement privé pour l'abrogation de la loi Debré et des lois anti-laïques.
Oui, effectivement, la Fédération nationale de la libre pensée l'a d'ores et déjà élaborée et a proposé à l'ensemble des composantes du mouvement laïque et il est actuellement en discussion. Une fois les élections législatives passées, la libre pensée fera d'autres propositions pour matérialiser concrètement le combat laïque pour l'abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti-laïques.
La deuxième revendication, c'est la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. C'est bien ça ?
Oui, nous nous appuierons d'ailleurs sur les réalisations précédentes, déjà obtenues en quelque sorte. 2000 communes ont pris position pour cette réhabilitation. 31 conseils généraux et 6 conseils régionaux. Et bien sûr, la proposition de loi a été votée à l'Assemblée nationale.
Oui, la troisième revendication, c'est le soutien au projet de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Oui, et il faut absolument obtenir l'aide active à mourir avec le plein respect des directives anticipées, en application du principe du plein respect de la liberté de conscience des personnes.
Et est-ce qu'on peut dire que la libre pensée participera à une coalition électorale ?
Oui, c'est une question importante, oui. Si nous voulons que la libre pensée poursuive son combat pour la défense de la démocratie, de la République et de la laïcité, elle doit garder en toutes circonstances son indépendance, sa liberté de comportement. Il faut rappeler d'ailleurs que la libre pensée était partie prenante du Front populaire en 1936 et que très rapidement, elle en est sortie du fait de la trahison des revendications laïques. Nous pensons donc que pour sauver la démocratie et la laïcité, qui en est un des piliers, il faut en finir avec les institutions de la Ve République. Pour cela, il convient de renouer avec l'œuvre révolutionnaire et démocratique de nos aînés. Nous nous inscrivons donc pleinement dans la perspective de la mise en œuvre d'une assemblée constituante dont le peuple souverain décidera librement de la forme et du contenu.
Oui, eh bien, aujourd'hui, la libre pensée de la Gironde s'exprimait sur sa volonté de battre l'extrême droite et ses alliés. Et n'oublions pas l'une des principales idées de la libre pensée, qui est la liberté d'expression. La liberté d'expression sous toutes ses formes, et notamment à la radio. Et nous n'oublions pas que la clé des ondes, la radio qui nous offre la possibilité de nous exprimer dans cette émission Les Clés des Libertés, pourrait être menacée par l'arrivée de l'extrême droite. Donc nous exprimons tout notre soutien à la radio, la clé des ondes. À très bientôt.
Merci beaucoup Esmeralda et Jean-Paul pour cette chronique de la Libre Pensée. On est déjà en retard, il est 13h passé. Le temps de vous dire jusqu'à ce soir, c'est la dernière de Yassas avant l'été, émission spéciale sur les concerts de l'été et les artistes qui tourneront en Grèce pendant l'été, comme ce qu'on entend derrière moi, c'est Babo Koro avec le titre Sisyphos. À 18h, il y aura également le chemin des transitions avec le collectif qui s'oppose au surf park de Canéjean, et à 19h, climat de lutte.